Catherine le matin jusqu'à 9h30. Vous écoutez. Que la mort ici se lève. Voici Catherine Gaudreau.
Oui, elle était déjà là lorsqu'on a rediffusé l'entrevue que Robert a réalisée hier avec le copropriétaire de la compagnie Hereti Signature, Anis El Arzi. Elle est avocate, conseillère budgétaire et juridique chez Options Consommateurs. Maître Thériault, bonjour.
Oui, bonjour.
Maître Thériault, je sais que vous étiez à l'écoute. Il y en a beaucoup. Hein. Hier, dans l'émission de Robert, à la suite de la diffusion de cette entrevue, les gens ont appelé pour dire « Oui, oui, je connais telle entreprise qui a un peu la même façon de faire. » On parle de sollicitations téléphoniques et des pratiques douteuses de certaines compagnies. Comment on fait, Madame Maître Thériault, pour se protéger contre ça comme consommateur?
Mais c'est vrai qu'il y a une recrudescence de vendeurs itinérants de toutes les sortes, que ce soit des meubles ou des thermopompes, des panneaux solaires ou autre chose. Comment on fait pour se protéger? Bon, premièrement, il faut savoir que quand on conclut un contrat avec un vendeur itinérant, on a 10 jours pour l'annuler sans raison. C'est un des seuls domaines, d'ailleurs, où on a le droit d'annuler un contrat qui a déjà été fait. Ensuite, quand le vendeur itinérant il est chez vous, il peut vous faire de la pression. Puis contrairement à un magasin, quand on n'est pas intéressé, on peut sortir. Mais quand on est chez nous, on peut pas juste partir. On est comme pris avec le vendeur. On peut subir la pression. Donc si on sent la pression, si on nous dit que la vente c'est juste aujourd'hui, que c'est juste maintenant, ben déjà là c'est suspect. Ok, c'est rare qu'un solde va durer juste une journée ou que c'est un événement d'un jour. Ensuite, si on n'a pas le temps de magasiner, c'est peut-être pas une bonne idée de signer tout de suite. Il faut vraiment avoir le temps de magasiner, de comparer les prix, puis de réfléchir à tête reposée avant de signer.
OK. Maître Thériault, il y a des auditeurs, auditrices qui nous disaient hier, que ce soit par écrit ou au téléphone, ben moi, je comprends pas parce que je reçois beaucoup de sollicitations téléphoniques, ce genre d'entreprise-là qui même me harcèle. Et pourtant, je me suis inscrit sur la liste nationale de numéros de télécommunications exclus du Canada. Donc, normalement, du télémarketing, je devrais pas en recevoir. Est-ce que ça fonctionne encore, cette façon de faire-là?
Ça fonctionne malheureusement de plus en plus avec ce qu'on appelle le spoofing. Quelqu'un qui vous sollicite peut afficher un faux numéro de téléphone, vous faire croire que c'est un numéro de téléphone qui ressemble au vôtre ou à celui d'un proche ou qu'il soit dans votre indicatif régional, ce qui va vous pousser à décrocher. Puis, ils sont très durs à retracer et donc, même quand on se plaint à la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, ils sont difficiles à retrouver. Malheureusement, là, l'outil est rendu un petit peu désuet, mais pas complètement inutile encore.
OK, mais Maître Thériault, peut-être j'ai mal posé ma question. Ce que je voulais dire, c'est que si je me suis inscrit sur la liste, donc j'ai inscrit mon numéro de téléphone pour réduire le nombre d'appels de télémarketing, il y a un lien. Est-ce que je m'épargne des appels? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'en aurai pratiquement plus de ce genre d'appels-là?
Ça dépend vraiment des personnes, en fait. Il y en a qui vont pour qui ça va complètement cesser, puis il y en a qui vont continuer d'en recevoir. Il faut se rappeler qu'il y a quand même des exceptions qui ont toujours le droit de vous contacter, comme les partis politiques. Je pense que les journaux, les revues ont le droit de vous contacter, puis les personnes ou les compagnies avec qui vous avez fait affaire dans les deux dernières années. Mais autrement, comme je dis, c'est très variable parce qu'il y a des numéros qui vont plus être visés que d'autres. Ça dépend aussi jusqu'à quel point vous avez diffusé vos renseignements personnels. Quand on donne nos renseignements personnels ou nos numéros de téléphone à toutes sortes d'endroits, par exemple, on remplit des coupons de concours, on met notre numéro de téléphone. On donne notre numéro de téléphone quand on achète un paquet de batterie 2A au magasin. Ben, ça a le plus de chances de se diffuser puis d'être utilisé par un télémarketeur que si on conserve ces renseignements-là pour nous.
Madame Maître Thériault, hier, avec M. Tanguay de l'Office de protection du consommateur, on regardait le nombre de plaintes. Il y en a à peu près 90 contre cette entreprise-là. Quand quelqu'un, si moi, mettons, je décide de déposer une plainte, est-ce que la plupart du temps, ça reste sans suivi? Est-ce que ça donne quelque chose de déposer une plainte, soit pour sollicitation ou pour harcèlement? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait?
Ben, je peux pas parler pour comment l'Office de la protection du consommateur fonctionne, mais c'est clair que s'il y a une plainte isolée, ça a moins de chances de déboucher sur une enquête que s'il y a beaucoup de plaintes. Effectivement, quand il y a un paquet de plaintes, surtout quand elles rentrent dans une période de temps qui va être assez limitée, assez courte, c'est certain que ça va attirer l'attention de l'Office de la protection du consommateur et en tant qu'organisme gouvernemental, qui a pour mission de faire appliquer la loi, ça peut très certainement déboucher en des enquêtes, des poursuites pénales puis des amendes.
OK. Ce genre d'entreprise-là qui utilise la sollicitation téléphonique pour inciter les clients à se déplacer, qu'est-ce? Parce qu'hier, on disait, bien, jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'illégal là-dedans, il n'y a rien de frauduleux, bien que pour certaines personnes, c'est un peu douteux, mais qu'est-ce que des entreprises comme ça n'ont pas le droit de faire? À partir de quel moment ils traversent la ligne de l'illégalité?
Bon, d'abord, ils n'ont pas le droit de faire ça sans permis de l'Office de la protection du consommateur. Donc, il doit avoir un permis de vendeur itinérant parce que vous faire de la sollicitation pour vous amener à venir dans un lieu pour acheter, et surtout si ce n'est pas un lieu permanent, parce que là, il apparaissait de cette stratégie-là que cette compagnie semblait déménager de locaux souvent. Donc, ça prend un permis de vendeur itinérant. Ensuite, ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de mettre une note défavorable à votre dossier de crédit si vous décidez de rompre ce contrat-là dans les délais. Et les délais, comme on a dit tantôt, c'est 10 jours sans aucune raison. Vous pouvez annuler dans les 10 jours et vous devez simplement rendre la marchandise et ils doivent vous rembourser. Et s'il y a un vice de formation du contrat, parce que les contrats de vendeur itinérant sont très, très, très formalistes. Il doit y avoir beaucoup d'informations précises qui sont à l'intérieur, comme vos coordonnées, celles du vendeur, une description précise des biens avec numéro de modèle, etc. Il doit vous informer de votre droit de résolution puis vous fournir un formulaire pour la résolution. Et ce contrat-là doit être signé par vous et par le vendeur itinérant. Et si une de ces conditions-là n'est pas rencontrée, là, il y en a d'autres, là, je ne nommerai pas ça, okay, ben, vous avez un an pour résoudre le contrat sur la base de ce vice de formation-là. Ce qui fait que si plus tard, après 10 jours, vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir pour une raison, c'est vrai que vous pourriez demander au tribunal de résoudre votre contrat sur la base de « j'ai eu des fausses représentations », mais c'est assez complexe. Donc, vous pouvez utiliser le fait qu'il y a un vice de formation dans votre contrat pour le résoudre de plein droit, c'est-à-dire sans avoir à vous adresser au tribunal.
OK. Maître Thériault, je pense que tout ça est assez clair. Merci d'avoir précisé ce dossier-là pour nous ce matin.
Bien, ça me fait plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Maître Élise Thériault, avocate, conseillère budgétaire et juridique chez Options Consommateurs. Donc, comment se protéger lorsqu'on parle de sollicitations téléphoniques et de pratiques douteuses de certaines compagnies?